VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. RDC, 14 personnes tuées ce jeudi dans un massacre à caractère ethnique dans la province du Nord Kivu dans l'est du pays. L'armée nationale et les casques bleus sont de nouveau accusés de passivité face au groupe armé. John Lyndon.
Le drame s'est produit dans la nuit à Miriki, localité du Nord Kivu, à environ 110 km au nord de Goma, la capitale de cette province, déchirée depuis plus de 20 ans par des conflits armés, alimentés notamment par des différends ethniques et fonciers. Les autorités territoriales et le chef coutumier local de la communauté Nandé accusent des rebelles hutu-rwandais, des forces démocratiques de libération du Rwanda, d'en être responsables. Le drame a fait 14 morts, tous issus de l'ethnie Nandé. Selon des sources locales, le chef Nandé du sud de Miriki s'oppose depuis plusieurs mois au retour des déplacés hutu-congolais, accusant ceux-ci de vouloir conquérir l'espace Nandé. Le lieutenant Mac Azukai, porte-parole de leur position à Miriki, avant de tuer à l'arme blanche. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la MINUSCO n'a pas souhaité faire de commentaires à ce stade.
Burundi, le verdict au procès des putschistes des 13 et 14 mai 2015 sera prononcé le 14 janvier 2016. Entre-temps, la défense continue de présenter des arguments pour prouver que le procès n'a pas été équitable. Notre correspondant Christophe Nkurunziza s'est rendu à Gitega, dans le centre du pays, où les délibérations ont lieu. Son reportage.
Il est presque 19h, heure locale, lorsqu'un camion de la police sous haute escorte achemine les 28 personnes accusées d'être de mèche avec le général Godefroy Niyombare, qui avait revendiqué le changement de régime le 13 mai 2015. Le président du siège venait de clôturer l'audience débutée vers 7h GMT. Épuisés, les présumés putschistes se sont dirigés vers la maison de détention de la prison centrale de Gitega, où ils croupissent depuis octobre de l'année dernière. L'avocat de 3 détenus estime que le procès ne suit pas ce qui est recommandé dans le code pénal burundais. Fabien Segatois.
Il n'appartient pas au prévenu de prouver son innocence. Il appartient au ministère public de prouver la culpabilité par des éléments de preuve produits dans le dossier ou alors par des témoins, parce que les témoins sont également des éléments de preuve. Mais ce qui est prévu par la loi, c'est que tous ces éléments de preuve doivent être produits à l'audience et combattu contradictoirement à l'audience, parce que le prévenu a le droit de s'opposer à ce qu'un témoin dit à l'audience et il doit le dire à l'audience.
Pour cet autre avocat qui défend un capitaine de la marine burundaise qui était de garde le jour de son arrestation, le procès est unique car il n'a aucune preuve tangible fournie par l'accusation.
Le ministère public n'a pas pu apporter de preuves à la cour, démontrant clairement, au-delà de tout doute raisonnable, que mon client a été impliqué directement ou de près dans cette tentative de putsch. En ce qui concerne les deux autres infractions, à savoir l'assassinat, nous avons démontré à la cour qu'on ne peut pas globaliser en matière pénale, que la responsabilité pénale est individuelle, personnelle, que le ministère public n'a pas su démontrer, noir sur blanc, que mon client a tué. Sur ces infractions, nous avons dit que mon client doit être acquitté.
Depuis la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat contesté, la violence a augmenté d'un cran dans certains quartiers et régions de l'intérieur du pays. Même les négociations entre belligérants de l'opposition et du gouvernement piétinent. Arusha a été boycotté par la partie gouvernementale, jugeant la décision du médiateur Yoweri Museveni de n'avoir pas été consultative pour fixer la date du 6 janvier 2016 comme début des pourparlers. Christophe Nkurunziza, Gitega, VOA Afrique.
Cap sur l'Afrique de l'Ouest maintenant. Au Burkina Faso, les Burkinabés ont finalement découvert ce jeudi le nom et le visage du nouveau Premier ministre. Il s'appelle Paul Kabatieba. Il était administrateur délégué à l'UMOA à Dakar au Sénégal. C'est un technocrate resté à l'écart du monde politique burkinabé. Le point avec notre correspondant Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
En nommant Paul Kabatieba au poste de Premier ministre du Burkina, le président Roch Marc Christian Kabore a déjoué tous les pronostics. Personne n'avait fait cas de ce haut cadre des finances qui était administrateur délégué du Fonds de stabilité financière de l'UMOA, différent de l'UMOA. L'UMOA, c'est l'Union monétaire ouest-africaine qui se caractérise par la reconnaissance d'une même unité monétaire, le franc CFA. Le nouveau Premier ministre n'est pas un homme du sérail politique. Il a fait toute sa carrière dans les institutions financières hors du Faso. C'est donc un technocrate pur sang. Et cette virginité politique semble déjà lui porter un capital de sympathie. Le parti chef de file de l'opposition, l'UPC, tout en félicitant le nouveau Premier ministre, l'invite à former rapidement un gouvernement qui va s'attaquer sans tarder aux problèmes cruciaux qui assaillent les Burkinabés. Le nouveau Premier ministre, à partir de sa nomination, a 30 jours pour faire sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Ousmane Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La Mauritanie a lancé un avis de recherche contre un djihadiste mauritanien qui s'est évadé d'une prison de Nouakchott à la fin de l'année après avoir été condamné à mort en 2011 pour action terroriste. Salek Oulchek, qui a disparu depuis le 31 décembre de la prison centrale de Nouakchott, s'était vu infliger la peine capitale suite à une opération à la voiture piégée menée par Al-Qaïda au Maghreb islamique qui visait à assassiner le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Son épouse et sa sœur, qui lui rendaient souvent visite en prison, ont été arrêtés lundi dans le cadre de l'enquête sur son évasion. En Libye, près de 57 personnes ont été tuées dans un attentat au camion piégé contre un centre de formation de la police à Zlitten, dans l'ouest du pays. Plus de détails avec Idriss Fall.
Un kamikaze a fait exploser un camion-citerne contre le centre de formation des gardes-côtes à Zlitten, à quelques 170 km à l'est de Tripoli. Entre 50 et 55 personnes ont été tuées et au moins 100 blessées, selon Amar Mohamed Amar, porte-parole du ministère de la Santé à Tripoli, qui estime que ce bilan pourrait être révisé à la hausse. Martin Kobler, émissaire spécial de l'ONU, a condamné l'attentat. L'ONU s'efforce de mettre en place rapidement un gouvernement d'union nationale après l'accord signé le 17 décembre par des membres des deux parlements rivaux et qui doit être entériné avant le 17 janvier. M. Kobler a averti que tout retard profiterait au groupe État islamique qui contrôle déjà la ville de Sirte. Les djihadistes combattent les deux gouvernements rivaux, l'un reconnu par la communauté internationale basée dans l'est du pays et l'autre non reconnu à Tripoli. En début de semaine, le groupe djihadiste a lancé une offensive contre les installations pétrolières dans le nord libyen. Les combats ont fait plusieurs morts et 4 réservoirs de brut ont pris feu.
Crise Iran-Arabie Saoudite maintenant. Téhéran accuse l'aviation saoudienne d'avoir délibérément bombardé l'ambassade d'Iran au Yémen. Accusation formulée aujourd'hui par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Hossein Jaber Ansari. Cette action délibérée de l'Arabie Saoudite est une violation de toutes les conventions internationales pour protéger les missions diplomatiques, a déclaré M. Jaber Ansari. Il a ajouté que le gouvernement saoudien est responsable des dégâts causés et de la situation des membres du personnel de l'ambassade qui ont été blessés. Et toujours concernant la crise Iran-Arabie Saoudite, après la Turquie, l'Irak offre maintenant ses bons offices pour aider à résoudre ce différend. Les précisions de Michel Joseph.
Le chef de la diplomatie irakienne, Ibrahim al-Jafari, a proposé la médiation de son pays mercredi lors d'une conférence de presse à Téhéran aux côtés de son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif. La place de l'Irak au cœur du Moyen-Orient lui permet de jouer un rôle pour réduire les tensions, a-t-il dit. Ibrahim al-Jafari a qualifié de crime l'exécution en Arabie Saoudite du dignitaire chiite Sheikh Nimr al-Nimr, l'événement ayant mis le feu aux poudres. L'Irak essaie de ménager la chèvre et le chou dans cette nouvelle crise du Moyen-Orient. Son gouvernement à dominante chiite dépend de l'aide iranienne pour son combat contre les extrémistes du groupe État islamique. Dans le même temps, les autorités irakiennes tentent de renforcer leurs relations avec l'Arabie saoudite qui a envoyé un ambassadeur à Bagdad pour la première fois en 25 ans. Autre pays a proposé sa médiation, la Russie, mais il n'est pas clair si les deux pays en conflit ont répondu à l'offre.
Et pour terminer en France, le président français François Hollande a exigé ce jeudi une parfaite concertation entre les services de sécurité du pays dans la lutte antiterroriste. Et ce, lors d'une cérémonie organisée un an jour pour jour après l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo. Face à la menace du djihadiste aguerri, le chef de l'État français a jugé essentiel que chaque service, police, gendarmerie, renseignement, militaire, travaille en parfaite concertation dans la plus grande transparence transparence et qu'ils mettent en commun toutes les informations dont ils disposent. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.